à tous les auditeurs de Radio MDM. Dans l'émission, leur histoire est aussi notre histoire. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de la fondation de Mont-de-Marsan en 1141 par le vicomte de Marsan, Pierre. Aujourd'hui, nous allons évoquer la période qui va suivre son décès après 1163, donc le dernier quart du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle en Marsan. Je vais vous parler indirectement du Marsan car il est lié aux différents conflits qui vont se produire entre les vicomtés de Gascogne. Le contexte politique de cette période de la fin du XIIe siècle est en effet très complexe et il va générer des affrontements entre ces comtés et ces vicomtés gascognes qui vont se poursuivre jusqu'au XIIIe siècle. Et ils entraînent notamment les vicomtes de Marsan dans ces remous. Alors nous avons quatre vicomtés ou comtés qui sont concernés par les remous qui vont se produire. D'abord la vicomté de Marsan, dont je vous rappelle que depuis 1130 environ, elle est unie au comté de Bigorre lorsque Pierre de Marsan, vicomte, a épousé la comtesse de Bigorre, Béatrix. Nous avons ensuite la vicomté de Béarn et enfin le comté de Comminges, qui est voisin de la Bigorre. Alors, il se trouve qu'à cette époque, Béarn et Bigorre sont rentrés sous l'influence du roi d'Aragon, Alphonse II, qui est aussi comte de Barcelone. C'est un souverain très ambitieux et il lorgne vraiment vers le sud des Pyrénées. La Bigorre est sous son influence depuis l'hommage en 1122 du comte de Bigorre au roi d'Aragon, Alphonse Ier, le batailleur, qui était le père d'Alphonse II. Et en Béarn, eh bien, il est pratiquement implanté depuis 1142, car il est tuteur du jeune vicomte de Béarn, Gaston, qui lui rend donc hommage. Cette proximité pourrait constituer une menace pour la Gascogne. Alors, il faut garder ça dans un coin de votre mémoire, car nous allons continuer ensuite avec la descendance de Pierre de Marsan. Pierre de Marsan et Béatrix de Bigorre ont eu deux enfants. Une fille, Roubéa, ce qui signifie rose blanche, très joli prénom. Elle est née vers 1131 et elle épouse le vicomte Bohémond de Fezensac. Ils ont également un fils qui est né, semble-t-il, un an avant Roubéa. Ce fils s'appelle Centule, en l'honneur sans doute du père de Béatrix. Et il devient vicomte de Marsan et comte de Bigorre en 1163 à la mort de Pierre. Nous n'avons malheureusement aucun acte passé par Centule durant son gouvernement du Marsan. On sait seulement qu'il a accordé aux habitants de Bagnères de Bigorre une charte de coutume avantageuse pour la communauté de ce lieu et qui lui permet notamment de s'administrer elle-même politiquement. Mais pour le Marsan, malheureusement, nous ne savons rien. Et c'est bien dommage. Vers 1155, Centule de Marsan-Bigorre avait épousé la veuve du vicomte Pierre de Gabaret, Mathel des Beaux. C'est une alliance importante car Mathel est la cousine de Raymond Béranger, vicomte de Barcelone et, attention, prince d'Aragon. Nous voilà de nouveau avec l'Aragon. Mathel apporte à Centule en dot le Val d'Aran, Val d'Aran qui est situé Comminges, mais qui à cette époque dépendait du roi d'Aragon. Cette union va accentuer l'influence de l'Aragon sur une partie de la Gascogne, dont le Béarn. Mais bon, la donation en dot du Val d'Aran n'est que provisoire, car le roi d'Aragon va la récupérer quelques années plus tard. Or, historiquement parlant, le Val d'Aran avait toujours fait partie du Comminges, ce qui va mécontenter sérieusement les comtes de Comminges et de Bigorre. Les vicomtes de Béarn, en outre, prêtent hommage pour leur vicomté au roi d'Aragon et non pas au duc d'Aquitaine, ce qui peut être source de conflit, car les précédents vicomtes de Béarn, eux, étaient effectivement des vassaux du duc d'Aquitaine ou du comte de Gascogne. Le duc d'Aquitaine et de Gascogne est le roi d'Angleterre. Je vous le rappelle, Henri II Plantagenet, qui a épousé en 1142 Aliénor d'Aquitaine, duchesse. Ensemble, ils ont eu 5 fils. Et en 1175, le roi Henri confie le duché d'Aquitaine à son fils Richard. C'est le fameux Richard Cœur de Lion, vous savez, de la série télévisée qu'on voyait sur nos écrans il y a une trentaine d'années. Il lui donne donc pour mission de pacifier l'Aquitaine, dont les barons sont en révolte contre le roi duc depuis plusieurs années. Et en 1176, Richard saisit l'occasion d'affirmer la présence ducale en Gascogne. Il mène une expédition contre plusieurs seigneurs gascons qui avaient formé une fédération leur permettant de contrôler les cols basques où passaient les routes de Saint-Jacques de Compostelle. Par ce contrôle, il percevait des revenus qui étaient quand même relativement lucratifs. Cette fédération comprenait le vicomte de Marsan, Centule, son gendre Pierre, vicomte de Dax, ainsi que le vicomte de Bayonne et peut-être le vicomte d'Or. Alors, on ne connaît pas les détails de l'affaire, l'affrontement entre Richard Cœur de Lion et ses vicomtes gascons. On ne sait que ce qu'en disent les chroniqueurs anglais qui ne sont pas forcément favorables aux gascons. Donc, il est possible qu'ils aient caché quelques éléments de l'affaire. Il est possible, par exemple, qu'une décision de Richard ait motivé la révolte des trois vicomtes contre lui. Malheureusement, nous n'avons aucune information à ce sujet. Donc, Centule de Marsan et son son gendre Pierre se réfugie dans la ville de Dax, la ville de Pierre, où ils sont assiégés durant 10 jours par les troupes de Richard. Ils sont finalement obligés de se rendre, mais dès que Richard s'éloigne, les vicomtes commencent à se livrer à des actes d'hostilité envers les officiers de celui qui était quand même leur suzerain. Richard avait laissé en place donc des officiers pour le représenter, et ça s'est passé très mal. Richard a été averti, il est revenu sur ses pas, il a assiégé de nouveau la ville de Dax. Voici que le vicomte Pierre est tué durant le siège. Qu'ont fait les habitants de Dax? Eh bien, ils ont tout simplement livré Centul, vicomte de Marsan et comte de Bigorre, ils l'ont livré à Richard, qui le fait évidemment jeter en prison. Et seule l'intervention du roi d'Aragon, Alphonse II, a permis sa libération. Mais Centul a été obligé de faire sa soumission à Richard, de payer une indemnité lourde et de lui céder un de ses châteaux. Alors, évidemment, cet épisode, qui est un des épisodes d'un certain nombre de révoltes quand même des barons gascons contre l'administration anglaise ou ses représentants, cet épisode montre qu'il y avait très probablement une distance quand même importante entre les représentants du nouveau duc d'Aquitaine, qui était le roi d'Angleterre, et les habitudes précédentes, qui étaient celles du duché d'Aquitaine. Revenons à Centul, que va devenir sa descendance ? Centul et Mathel des Beaux ont eu un seul enfant, une fille, Stéphanie, qu'on appelle aussi Béatrix IV, qui est donc comtesse de Bigorre et vicomtesse de Marsan à la mort de ses parents. Stéphanie avait dans un premier temps épousé le vicomte de Dax, Pierre, mais bon, comme nous avons vu que ce pauvre vicomte de Dax a été tué devant sa ville, elle s'est retrouvée veuve sans enfant. Alors ensuite, ses parents la marient, pour des raisons diplomatiques, au comte de Comminges, Bernard IV. Je vous rappelle qu'à cette époque, malheureusement, les femmes ne sont que tout simplement des pions dans les alliances, donc on les marie au gré de la volonté d'un seigneur ou d'un autre afin de renforcer son pouvoir essentiellement. Centul et Mathel ont eu peut-être la vue un petit peu courte parce que ce comte de Comminges Bernard IV, qui est également le neveu de Raymond V, comte de Toulouse, c'est un personnage très retors. Nous allons le voir. Dès qu'il a reçu le titre de comte de Bigorre, il va tout de suite répudier son épouse et il va tenter de garder le comté pour lui au détriment de la fille qu'ils ont eue ensemble, Pétronille. Alors heureusement, là, le roi d'Aragon était là, car le roi d'Aragon est le tuteur de Pétronille de Comminges et il va la protéger en tant que tuteur. En 1192, il la fiance donc au vicomte de Béarn, Gaston Moncade, et donne à ce dernier le comté de Bigorre, sauf le Val d'Aran qu'il reprend à ce moment-là. L'union a lieu le 1er juin 1195 à Sainte-Marie-de-Muret. Durant ces événements, il semble bien que Stéphanie ait surtout séjourné en Bigorre, et nous ne savons absolument rien de son action en Marsan, ni d'ailleurs de celle de sa fille Pétronille. Celle-ci n'a pas eu d'enfant de son mariage avec Gaston Moncade, qui est mort en 1215. En revanche, ces divers mariages compliquent la situation des vicomtés et vont être à l'origine des contestations permanentes durant le XIIIe siècle à propos du comté de Comminges. Elle a donc eu deux filles de son troisième mariage et une autre fille de son dernier mariage, une fille qui s'appelle Matte. À la fin de sa vie, par testament du 3 novembre 1251, Pétronille de Bigorre va instituer comme héritier du comté de Bigorre son petit-fils, Esquivade de Chabanais, qui était le fils de sa fille aînée Alix, qui avait été mariée à Jourdain de Chabanais. Mais elle va donner la vicomté de Marsan à Matte de Mastas, donc la fille qu'elle a eue de son dernier mariage. Et cette Matte de Mastas va épouser le vicomte de Béarn, Gaston VII Moncade. Et nous allons donc parler de cette union, de toutes les conséquences qu'elle a eues ensuite sur l'avenir du Marsan, qui est bien dans l'affrontement entre ces différents territoires, ces différents comtés et vicomtés, qui vont se quereller pendant la fin du XIIe siècle, et encore un petit peu d'ailleurs au XIIIe siècle. Les seigneurs aimaient se battre, ils aimaient la guerre et de temps en temps, ils tombaient sous les coups d'un ennemi. C'est ce que raconte la chanson Cantica Celestis, interprétée par Luc Arbogast, dont je vous livre quelques paroles du début. Sous une pierre, il repose ce beau seigneur tant regretté par son peuple et par ses gens, par sa dame et par son pays. C'est un combattant courageux qui portait fièrement l'armure et qui menait ses armées si souvent vers la victoire. Hélas, en terre, il se trouve porté. Hélas, il dort pour l'éternité, celui qui méritait tous les bonheurs. Tout se chante. On l'a vu sur sa monture porter l'assaut droit devant, toujours sur les champs de bataille, les ennemis les poursuivant. Triomphalement, sur son home, la couronne fut déposée, et brandissant son épée, il vainquait tout ennemi. Hélas, la couronne de la tête est tombée. Hélas, il a lâché son épée. L'armure lui fut retirée. Quelle douleur! Quelle douleur, hélas. Il est couché dessous la pierre. Hélas, entendez les femmes pleurer. Son âme dans les rayons du soleil s'élève. Les chevaux des anges arrivent pour l'emmener sur un char d'argent et des nuées, une voix l'appelle. Seconde partie de cette émission, là, je vais vous parler de la jeune ville de Mont-de-Marsan durant ses 77 années d'évolution qui ont vu sa création au confluent par Pierre de Marsan jusqu'à son extension en 1240, moment où les premiers documents écrits sur la ville commencent à apparaître. Alors, qu'y avait-il au confluent dans cette seconde moitié du XIIe siècle ? Faute de texte, vous pensez bien qu'on ne peut qu'imaginer le paysage du confluent. Sans doute quelques habitations éparses en torchis, des habitations d'artisans, ou peut-être de marchands. Y avait-il seulement un moulin ? Aucun texte ne permet de le dire. Y avait-il seulement un château ? Alors parlons de Château Vicomtal, qui a été surnommé Château Vieux par les érudits locaux et peut-être par les habitants. Lorsqu'on a construit dans la seconde moitié du XIVe siècle le second château, ou château de Nolibos, sur l'emplacement des maisons situées après l'actuelle préfecture. Les historiens ne peuvent actuellement pas affirmer que le château Vicomtal existait au confluent avant la fondation de la ville, ou bien s'il a été édifié lors de cette fondation. Alors, étant donné que le débat a été exposé dans l'Atlas historique de Mont-de-Marsan et que j'ai participé donc à l'écriture de ce chapitre, je peux vous donner mon avis. Étant donné que le confluent est très propice à une activité économique d'échange qui est absolument vérifiée pour l'Antiquité et que ce site de confluent a probablement été choisi par le vicomte en raison de son intérêt économique, eh bien, ce confluent se situait sur le territoire du vicomte. Il me semble possible que ce dernier, garant de la sécurité dans sa vicomté, a pu faire édifier au moins une tour qui permettait de surveiller ses activités. Alors, pour moi, cette tour, elle est antérieure à la fondation de Mont-de-Marsan, mais je ne peux pas dire si elle est due à Pierre de Marsan ou à son père, Louis Aner. Cependant, ce genre de situation existait, puisque à Roquefort, par exemple, où résidaient, je rappelle, les vicomtes avant la fondation de Mont-de-Marsan, nous avons un texte de 1108 qui évoque un acte passé, je cite, « sous la tour de Roquefort ». Donc, début du XIIe siècle, il y avait bien une tour à Roquefort, une tour seigneuriale, car seuls les seigneurs avaient le droit d'édifier ce genre de bâtiment. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas eu, quelques années plus tard, une tour au confluent de Mont-de-Marsan. Une autre raison, c'est que les dernières recherches qui ont abouti à l'Atlas historique de Mont-de-Marsan, paru en 2018, ont permis de mettre en évidence l'existence de voies de circulation nord-sud antérieures à la fondation de la ville. L'une d'elles traverse la Midouze près de l'église de Saint-Jean-d'Août. Nous ne sommes donc pas très loin du confluent. La seconde voie de circulation traversait le Midou, à peu près en face de l'actuelle mairie, pour arriver derrière le bâtiment du conseil départemental. Il ne faut pas oublier que de toute façon, depuis sans doute le début du XIIe siècle, pèlerins et voyageurs passaient par là, puisque c'était une des voies de pèlerinage et une des voies par lesquelles passaient aussi les voyageurs. Il est donc probable qu'un premier château vicomtal ait pu s'élever au confluent avant la fondation de la ville. Les recherches de l'Atlas ont permis de retrouver également la trace des enceintes et des quartiers successifs de la ville tels qu'ils se sont peu à peu développés. Cela permet donc de combler les lacunes des textes. Alors voyons comment se sont peu à peu étendus ces faubourgs. D'abord, à l'origine, dans les débuts de la ville, une première enceinte a forcément entouré le château vicomtal, occupant l'ensemble de la place de Gaulle, là où se trouve aujourd'hui le théâtre, ainsi que dedans peut-être un groupe de maisons, les premières maisons qui avaient été attribuées, et sans doute un lieu de culte, probablement la première église de la Madeleine, qui devait être à ce moment-là un édifice modeste, qui ne pouvait pas être construite in extenso, qui restait à construire et qui sera édifiée courant XIIIe siècle. Cette enceinte allait jusqu'à l'entrée de la rue Dominique de Gourgues à l'ouest. Elle était donc limitée au nord par l'actuelle rue Armand du Lamont, qui est suivie de la rue Victor Hugo. À l'est, la rue Pujolin constituait sa limite, et au sud, la rue Lacataille. C'est un petit ensemble modeste, mais jusqu'au XVIIIe siècle, au moins, une porte de cette première enceinte a subsisté. Nous en avons la trace dans les textes. Elle s'appelait la porte de fence, c'est-à-dire de fence qui signifie la porte de dedans. Cette porte s'élevait juste à côté de la maison commune, située alors à côté du café Divan actuel. Elle a été surnommée également porte première dans les textes, en référence à son ancienneté. Elle a été démolie au cours du XVIIIe siècle, mais elle a été une des dernières affectées par cette démolition. Peut-être parce que, symboliquement, elle demeurait un témoignage de la première ville de Mont-de-Marsan, le premier tout petit noyau qui a existé dans la seconde moitié du XIIe siècle. L'espace clos ainsi délimité donc, avait à peu près la forme d'un grand ovale et il était desservi par un axe de circulation central, sud-ouest-nord-est, dont est héritée l'actuelle rue Robert-Vléric, qui anciennement s'appelait rue de l'Église. À son extrémité orientale se trouvent l'église de la Madeleine et le prieuré, dont les bâtiments initiaux ont dû être élevés assez rapidement avec des matériaux relativement modestes, hein, mais au moins pour assurer aux habitants un service religieux. L'édification définitive ne s'est faite que plus tard, au XIIIe siècle. Et le moulin, ou les moulins ? Dans la seconde moitié du XIIe siècle, l'existence de moulins est attestée par la donation de dîmes que fait un membre de la famille vicomtale. Eh bien, nous avons des textes de la seconde moitié du XIIe siècle qui attestent de l'existence de ces moulins à ce moment-là. Par la donation de dîmes qu'un membre de la famille vicomtale va faire, ainsi que d'ailleurs le vicomte, son épouse Béatrix et leur fils Santul, ils vont faire aussi à l'abbaye de Saint-Sever. Dans cet acte de donation, on se rend compte que plusieurs chevaliers servent de témoins, et on peut penser que ces chevaliers résident déjà dans la ville nouvelle, ainsi que le prieur, d'ailleurs, qui est mentionné à la fin de l'acte. Donc nous avons un petit noyau urbain qui a sans doute commencé à vivre assez rapidement. Pendant 70 ans, on peut penser qu'il a connu un afflux régulier d'hommes et de femmes désireux d'y vivre, et c'est ce vieux noyau de la ville qu'on nomme ensuite le Bourgvieux ou Borgbiel. Ensuite, le vicomte a très vite accordé un marché à la ville, car cette décision ne relevait que du seigneur, et qu'il fallait bien organiser le ravitaillement des habitants et de tous ceux qui venaient s'installer hors de la première enceinte, le long des nouveaux axes de circulation. C'est ainsi que les faubourgs sont nés, car dans toute ville, très rapidement, des hommes et des femmes viennent des paroisses voisines et parfois de plus loin, attirés par la perspective de travail, d'échanges auxquels ils peuvent participer, et ils vont à ce moment-là édifier leur petite maison en matériaux rudimentaires, souvent en torchis, en bois, avec des toits de paille. Et ils vont les édifier autour des murailles et petit à petit, ils vont ainsi créer des faubourgs de plus en plus importants et de plus en plus vivants. Donc ces faubourgs se sont sans doute créés spontanément au départ et sans ordre chronologique. Mais ce qui est certain, c'est qu'un siècle plus tard, vers 1270, ils sont constitués. Alors, nous allons parler notamment de l'un de ces faubourgs, le Bourg Nau, c'est-à-dire le Bourg Nouveau. Au nord de la première enceinte, c'est-à-dire sur tout le secteur qui aujourd'hui est constitué par la rue Armand-du-Lamont et la rue Victor Hugo. C'est là que s'est constitué un premier axe privilégié, est-ouest ou ouest-est. Cet axe vient à l'est de Saint-Médard, il longe la muraille de la première enceinte et il rencontre le chemin qui vient de Saint-Jean-d'Août et qui a traversé la Douze au niveau de, aujourd'hui, la place de la Porte Campette. Et cet axe-là va constituer l'axe structurant du premier faubourg de ce Bourg-Nau, qui va être appelé le Bourg-Nau d'ailleurs pendant des siècles, et dans lequel se crée parallèlement à cet axe, d'ailleurs, la rue Maubec, à l'intérieur de ce faubourg. Ce n'est pas un hasard si on a longtemps dit que la rue Maubec était la plus ancienne rue de la ville. Ce n'est peut-être pas tout à fait la plus ancienne, mais enfin, pratiquement, oui. Car c'est là aussi que s'élèvent encore aujourd'hui, 700 ans plus tard, les deux maisons romanes de la rue Maubec, maison de pierre, dont l'une est datée de la fin du XIIe siècle. Alors, elle a une apparence fortifiée, car comme elle était située hors des remparts, elle se protégeait des coups de main des pillards occasionnels. Elle ne pouvait pas résister, évidemment, à une troupe de soldats, mais au moins, elle était protégée. Il devait y avoir d'autres maisons de ce type, maisons de pierre, sans doute relativement fortifiées, tout au long de cet axe qui domine la rivière de la Douze. Et d'ailleurs, quand on regarde un plan cadastral, on se rend compte que l'ensemble des parcelles qui bordent la rue Maubec, que ce soit au nord ou au sud de la rue Maubec, sont des parcelles sensiblement de la même taille, des parcelles allongées, qui correspondent à une sorte de lotissement. Et il n'est pas impossible du tout que ce lotissement ait été constitué peut-être déjà par Pierre de Marsan ou par son fils, car on sait que le vicomte de Marsan, qui était comte de Bigorre, a réalisé exactement la même opération de lotissement de parcelles dans un bourg de Bigorre, qui est Bagnères de Bigorre. Et jusqu'à la Révolution, rue du Bourneau sera le nom de cette artère qui aujourd'hui s'appelle d'abord rue Armand-Dulamont, puis ensuite rue Victor Hugo. Le bourg s'est développé et au XVe siècle, nous avons un document des années 1450 qui fait l'inventaire des maisons de l'ensemble des quartiers de Mont-de-Marsan. Et dans ce Bourneau, ainsi que dans le Bourg Vieux, les habitations sont celles des notables, c'est-à-dire que c'est essentiellement là que vivent les personnes les plus importantes, de la noblesse ou pas. Ce quartier-là va devenir donc le grand quartier des notables. Pour terminer cette émission, je vous propose un chant d'un troubadour aquitain très connu, Guiraud de Bornel, composé à la fin du XIIe siècle ou au tout début du XIIIe siècle. Il s'agit de Reis Glorios.
Reis Glorios, verai lim seclartats, Deus poderos, Seigneur, sia vos plats, alme compagni sia fizes aida, che un non la vipos la noit spon ven vida, et ad essera Glorios, verae lim seclartats, Deus poderos, Seigneur, sia vos plats, al mei compagne sia fizes aida. Che non la vi pos la noit spon ven guida, et ad essera l'alba. Reis Glorios, verae lim seclartats, Deus poderos, Seigneur, sia vos plats, alme il compagni sia fizes aida, che non la vi pos la noit son ven guida.